Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez, désormais, Good Luxe, tous les jours de la semaine en direct. Je vous retrouve en solo entre 13h et 15h. Et puis quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, j'espère que vous allez avoir du nez, puisque nous vous proposons une rencontre avec une éminence du parfum. Alors qu'il est en train de passer la main, nous vous proposons d'entrer dans le processus et les coulisses de la création d'un des plus grands nez français, Jean-Claude Héléna, créateur de parfums chez Hermès depuis 2004. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Emmanuel Rubin, c'est traditionnel, on commence par la table de la semaine et même les tables de la semaine. Ouais. Vous êtes allé voir ce qui se passait donc du côté de la Canopée des Halles.
Une semaine à peine d'ouverture, un peu plus, non? Canopée des Halles, effectivement plusieurs restaurants, alors pour la plupart ce sont des enseignes qu'on a l'habitude de fréquenter, mais vraies deux nouveautés. Et alors la première table de la semaine, c'est une déception, elle s'appelle ZA. C'est donc l'une des deux grandes tables attendues. C'est quoi ZA surtout? Vous allez voir, on n'a pas bien compris. C'est un restaurant qui se situe entre le fast-food et le nulle part. Je m'explique. Vous rentrez, vous avez face à vous une énorme cuisine avec des cuisiniers ou des crypto-cuisiniers qui officient. Ensuite, dans le prolongement de cette cuisine ouverte, des tables d'hôtes. Vous grimpez sur ces tables d'hôtes et là, il y a des serveurs mais qui ne servent à rien. Puisqu'en fait, tout se passe par votre téléphone portable, vous téléchargez une application et là vous passez la commande. Une fois la commande passée, il y a sur cette table d'hôte un système de rail magnétique et c'est donc 5 minutes après, par plateau, que débarque votre mangeaille. Et c'est de la mangeaille, des nourritures préformatées, alors des omelettes, des okay. croque-monsieur, très décevant.
Merci beaucoup.
Ce qui avait d'intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'ils avaient l'intention de faire un restaurant nouvelle génération pour les nouvelles générations. Et les gosses, les gamins sont pas totalement neuneux, en vérité. Moi, j'étais avec quelques ados qui me disaient, bon, quand on veut aller vite, on va vraiment dans les fast-food, et quand on veut au resto, en vérité, on aime bien les restos.
Bon, on regardera le bon. Il y a du Ducasse qui est pas trop mal. Vous en parlerez.
Le second, il est juste en face, c'est très bien.
Dans un instant. Alors, un hôtel, ça s'appelle Handsome Hotel. On est 83 rue Rambuteau, dans le premier arrondissement de Paris. C'est la bande, si j'ose dire, d'Elegantia Hotel, Christophe Sauvage, Philippe Vors, à qui on doit notamment déjà, par exemple, le Five ou le Hidden à Paris. La déco signée Dorothée Delay et Daphné Desjeux, décoratrice d'intérieur, encore des femmes. Et oui, c'est une véritable génération montante. Immeuble haussmannien, bois, moquette molletonnée, velours, laiton, canage en osier, camaïeu de couleur. Petit côté 50s, 60s, assez réussi. Ouais. Et évidemment, c'est la grande tendance. Assez coloré, mais plutôt dans un camailleux de couleurs. Boudoir mixte, c'est-à-dire ça fait pas trop fifi quand même, faut pas exagérer. 22 chambres.
Entre le boudoir et la cave à cigares.
Ouais, si vous voulez. 22 chambres réparties en 4 ambiances composées de couleurs chaleureuses. Donc c'est ça, hein, safran et or, bleu, beige, vieux rose, vert de gris. Franchement pas mal. Pas extraordinaire. Mais à tester.
C'est parfait, l'instant d'un week-end, ça tombe bien, c'est la saison qui commence.
Exactement, 83 rue de Rambuteau, dans le premier arrondissement de Paris.
Il y a un bar et un resto.
Il n'y a rien pour vous. Donc vous pouvez passer. Allez, Web de Luxe.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandre Desprenois, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, vous vous occupez de nos nuits et de nos prochains week-ends sur le web.
Hein. Ouais, ouais, et toujours pas de restaurant, désolé Emmanuel. Nightnight.co, c'est un site créé par un collectif parisien qui va vous permettre de trouver un bel hôtel, un lieu qui est censé sortir un petit peu du lot, avec surtout de la décoration un petit peu différente. Ça, c'est ce qui est annoncé dans le site. Après, faut voir, hein, parce que c'est toujours ce qu'on vous dit.
Quoi.
Voilà, les logements, en tout cas, sont choisis de manière assez exigeante. L'idée, c'est de proposer vraiment quelque chose de très lifestyle, et ce qui est plutôt bien fichu, mais c'est comme dans beaucoup de sites, faut le dire, c'est qu'on a aussi à chaque hôtel toutes les petites trucs à faire, enfin tout ce qu'il y a aux alentours du lieu de vie, du lieu de villégiature. La signature de ce collectif, c'est Unboring Hotels for All, donc tous les hôtels qui ne sont pas ennuyants et pour tout le monde, pour tous les budgets, ça sous-entend. Il y en a un peu partout dans le monde, allez voir, c'est sur nightnine.co.
Voilà, Hong Kong, Amsterdam, Copenhague, j'en passe, c'est des meilleurs, voilà, on sort un petit peu de Paris. Et puis,
Unique qui s'écrit J-U-N IQE, unique.fr, aujourd'hui présent en France, déjà installé dans 11 pays avec ouverture prochaine au Danemark et aux Pays-Bas. C'est une boutique en ligne, déco, accessoires, mode. Le principe, c'est de mettre en avant de jeunes artistes qui vont proposer leur design, leur message parfois sur tout un tas d'objets, des tirages d'art mural, du linge de maison, des coques de téléphone et j'en passe. Un matériel qui est fait en Europe, essentiellement en Allemagne. Il y a toute la collection linge de maison et vêtements, bien ce sont des tissus bio, sans tout ce qu'on dit, de le carbone, l'émission de carbone, tout ça. Voilà. Et puis il y a un magazine en ligne qui est plutôt pas mal fichu sur la déco, des idées, tout ça.
Donc encore du lifestyle complet.
Eh ben oui, on parle que de ça oui. Cette semaine.
Et donc, pour terminer, Miro.
Miro, M-E-E-R-O. Miro, je vois tout, je ne vois rien. Là, c'est un site pour les photographes d'intérieur. Ils photographient vos intérieurs privés, des agences, des magasins, pourquoi pas. L'idée, c'est de pouvoir bien mettre en avant les lieux qu'ils photographient pour mieux les louer, pour mieux les vendre et pour le client avoir un accès, un vrai regard sur le lieu en question. Voilà, c'est un site de photographes professionnels. Ça coûte 75€ pour une série de 12 photos, retouches comprises, c'est pas très cher, je trouve, et c'est plutôt pas mal.
Et ça permet de mettre en valeur les biens à vendre, par
voilà,
exemple.
Voilà, c'est ça.
Voilà, et ben on ressent
sans
moins
tricher, ah ben, ou un petit peu, quand
un
même.
Un petit peu.
C'est pour ça que c'est des professionnels.
Merci infiniment.
Merci
à vous, Sandy, à la semaine prochaine. Allez, Emmanuel, on retourne sous la canopée des Halles, mais cette fois-ci, on s'arrête un instant chez Lucas.
Chez Lucas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé Lucas
oui.
À Paris, à peu près un an avec le Plaza. Et surtout longtemps, et la première fois qu'on croise Lucas du côté de la brasserie. Lucas, c'est
du
bien sûr les palaces, c'est bien sûr les grands restaurants, c'est bien sûr Paris, Londres, New York, Tokyo, j'en passe, c'est bien sûr les bistrots, mais jamais la brasserie dite contemporaine. Et le voilà donc sous la canopée, juste en face du ZA que l'on zappe, à l'enseigne du Champeau. Champeau parce que c'est l'ancien lieu-dit de ce petit coin des Halles, et puis surtout ça renvoie à ce qu'elle était l'un des grands enseignes cultes de la gastronomie parisienne, l'un des premiers grands restaurants parisiens du 19e siècle. Voilà pour l'enseigne, le décor très moderniste, c'est presque brut de factory, j'allais dire, avec des petits clins d'œil à la belle époque, mais alors vraiment léger clin d'œil. C'est décidé par le collectif Sigu, ça ils savent faire. Et au niveau de l'assiette, eh bien c'est un Lucas qui va travailler sous les grands fondamentaux de la brasserie, à la fois les grands standards parisiens, à commencer par la soupe à l'oignon, les œufs mimosa, les haricots verts à la parisienne, et puis quelques plats un peu plus d'époque, à la manière d'un pavé d'Aigle-Bar, d'un saumon écossais label rouge travaillé avec un rougail mangue, c'est une manière de Sutney, mangue passion. Un petit clin d'œil est plutôt bien vu. Il faut attendre 20 minutes dans une brasserie. C'est pas toujours ce qu'on attend, mais pourquoi pas. Dédié aux soufflets. Les soufflets qui vont venir fort dans les saisons à venir. Soufflets salés, soufflets sucrés. Et j'allais dire, c'est du casse le disque dur. C'est parfait dans le sens où c'est carré. Un personnel au garde à vous, habillé en vieux garçon parisien.
Et l'addition,
oh, bien, elle a plutôt joué. C'est-à-dire que c'est une carte qui est très happée. Vous pouvez venir prendre simplement un plat. Il y a une section sur le pouce. Il y a un semainier. C'est-à-dire que du lundi au vendredi et même au week-end, on développe un seul plat. Là, vous le prenez, il est bien copieux, bien généreux. Ça va très sincèrement, pour manger, vous pouvez en avoir pour 15-20€ jusqu'à 40-50€ si vous voulez vous faire un peu plus plaisir. Ça, c'est plutôt pour le soir. Une belle brasserie. Une brasserie, ça doit être une sonorité, une ambiance et puis un personnel digne de la cavalerie légère. C'est un Ducasse en forme, on est content.
Au Halles, le Champeau. Donc, allez, une boutique, la Redoute intérieure. Alors, je vous vois venir, Emmanuel, vous allez me dire, la Redoute, ça existe encore? Bah ouais, ça existe encore. Et sincèrement, l'ancien catalogue de VPC, comme on dit, de vente par correspondance, c'est vraiment réinventé sur plein de choses. Et comme tout le monde, ils ont lancé toute l'offre intérieure et ils ouvrent boutique. Ils avaient déjà ouvert, vous vous souvenez, on avait ouvert à MPM, c'est le même groupe. Là, ils ouvrent la Redoute et c'est pas mal.
Et bien,
ce qui est dingue, c'est que c'est pas mal.
Pourquoi
on est aussi, on en parlait tout à l'heure, toujours dans là pour cette première collection environnement un peu 50s, 60s, assez coloré. Mais pour cette marque lancée en 2014, on a quand même plusieurs ambiances, donc vintage, ethnique, bohème. Et pour vous dire qu'ils sont totalement à la page, la mise en scène, on la doit à Elisabeth Le Riche, qui fait aussi beaucoup de mise en scène tendanceologue et beaucoup de mise en scène sur carrément maison et objets, scène d'intérieur, etc. Quoi. C'est une grande dame de la décoration et de la mise en scène. Donc bien sûr, meubles, accessoires, linge de maison. On a 150 mètres carrés, tout ça évoluera au fil des saisons. Et on aura évidemment des petites collections en capsule. Voilà, ça vit comme une vraie marque. Et désormais, c'est à Pignon-sur-Rue. Je ne sais plus si je vous ai donné l'adresse. La Redoute intérieure, c'est 10 rue du Trésor, dans le 4e arrondissement
la cure du Marais.
De Paris. Et pour l'objet de la semaine, Emmanuel, c'est vous qui vous y collez.
Allez, je vais aller vite parce que je sais que, mais d'ici quelques semaines, le grand événement va commencer, les championnats d'Europe de football en France. Et pas mal de marques de luxe commencent depuis quelques saisons à reconsidérer la matrice football, la matrice du ballon rond. Et viennent d'être révélées ces temps-ci la première collection football, alors des pièces uniques, des pièces exclusives signées Berluti. Alors il y a d'abord un ballon bleu ou coloré, travaillé en cuir, avec un cuir qui est le cuir Venezia, c'est vraiment le cuir qui est le cuir fétiche, le cuir signature de la maison Berluti. Mais le bottier, il va beaucoup plus loin, ils se sont associés à Bonzini. Alors pour tous les fans de babyfoot, Bonzini c'est la marque culte. Ils se sont associés, Bonzini pour le savoir-faire, la technologie, j'allais dire l'architecture du babyfoot, et puis pour le dessin, l'habillage, la cosmétique, et bien Berluti, alors attention.
À tout gainé de cuir,
gainé
en fait.
Cuir, là encore le cuir Venezia, plusieurs coloris possibles, des poignée en alu, tout le tapis en graphite, une pièce d'exception. Écoutez bien les prix. Le ballon, 550 euros. Quant au babyfoot, 22 000 euros.
Eh ben, c'est goûteux.
Eh ben, ça, hein. Ça.
Non, mais allez, est-ce que le cuir, là, ça fait pas mal aux mains, moi qui suis une grande habituée des babyfoot.
Non.
Vous avez testé, poignées, bon, ça va.
Ah, ils sont pas, c'est des professionnels.
Mais non, ceci dit, bon. Le foot comme ça, je veux bien. Ça me va.
Faites attention, on va la faire l'émission.
Non.
Bon, alors, continuez pas.
Non, on rigole pas. Là, on est. On se place haut. Respirez, attention, dans un instant, on se pose avec le nez d'Hermès, Jean-Claude Hélène. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe qui ont du nez cette semaine grâce à Jean-Claude Hélène, le dirigeant de parfum d'Hermès, en tout cas le nez du parfum d'Hermès qui est en train de passer la main. Nous avions envie de rentrer avec vous dans votre processus de création, de découvrir un petit peu les coulisses de tout ça, de votre premier parfum First au dernier parfum sorti. On va y revenir dans un instant chez Hermès pour nous accompagner bien sûr notre chroniqueur de parfum maison, Lionel Payès. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Claude Hélène, Hermès vient de lancer deux colonnes d'un coup, ça c'est l'actualité. Cela, ça fait en quelque sorte figure de passage de témoin entre vous et Christine Nagel, entre la rhubarbe et le lot de Neroli doré. Mm-hmm. C'est pas votre dernier parfum quand même.
Je crois pas que ce soit mon dernier parfum, mais c'était l'occasion de faire un passage puisque il y en a un qui est signé par Christine et un que j'ai signé. Donc la rhubarbe est signée Christine Nagel, le Neroli par moi. Et dans le Neroli, il y avait quand même une idée derrière qui était amusante, que moi je trouvais amusante. C'était le Neroli, c'est une odeur très aristocratique. Donc c'est une espèce de, voilà, de passage aristocratique du parfum.
À l'image de la maison Hermès.
À l'image de la maison Hermès.
Alors, la maison Hermès, vous y êtes depuis 2004.
Oui.
Donc 12 belles années, vous n'avez pas chômé, on va le voir. Ce serait intéressant pour bien comprendre, parce que vous existiez avant Hermès.
Oui.
Et vous existerez après.
Et on espère, c'est à vous de nous le dire au fil de l'émission. Oui. Racontez-nous un peu votre parcours, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes fils de parfumeur, mm-hmm. et vous êtes né à Grasse, mm-hmm. certainement le sein du sein. Vous travaillez d'ailleurs toujours à Grasse, votre laboratoire, votre bureau, votre cabinet, je ne sais pas quel mot on dit, je crois que c'est
atelier
de création, c'est à Grasse. Comment vous êtes venu? Parce que c'est quand même la question qu'on pose toujours. C'est un métier qui fait fantasmer beaucoup de gens. Comment on devient né? Vous, ça vous a pris comment? Par atavisme? Parce que papa était né?
Alors, papa était né, donc ça m'a aidé à rentrer dans la parfumerie. Mais moi, j'étais un très mauvais écolier à l'école. Donc, un mauvais écolier. Et mon père désespéré, ma mère plus que cela. Donc, à 16 ans, me voilà dans l'industrie du parfum. Et je rentre à 16 ans comme ouvrier dans la parfumerie. Donc ça fait 53 ans que je suis dans le parfum jusqu'au coup.
Et quand vous dites ouvrier dans la parfumerie, ça consiste
ouvrier
en quoi?
Ouvrier dans la parfumerie, ça voulait dire charger les alambics, décharger les alambics.
Donc vous connaissez vraiment tout le circuit?
Je connais tout le circuit.
Un peu comme un grand chef de cuisine qui a commencé absolument. Au bac d'eau chaude et au bac d'eau froide.
Absolument, oui, de la cueillette des fleurs en passant par l'alambic et voilà.
Alors vous dites que vous étiez un mauvais élève. Il n'empêche que la parfumerie, c'est aussi une matrice très scientifique. On parle d'ailleurs de formules. Oui. Il y a quand même une science qui relève quasi de la chimie, qui est de la chimie. Comment on en vient, le camp que vous étiez, à justement dompter, domestiquer toute cette dimension un peu scientifique de la parfumerie? On parlera par la suite, bien sûr, de ce qu'est l'imaginaire, le sentiment, mais ça, les cancres, on s'y le droit d'en avoir.
Alors la partie scientifique, oui, il y a une partie scientifique, mais elle n'est pas importante dans la création. C'est-à-dire, on est dans le même niveau que pour les cuisiniers. C'est-à-dire que en cuisine, vous faites de la physique et de la chimie toute la journée.
Bien évidemment.
À partir du moment où vous cuisinez, c'est la chimie de la physique. En parfumerie, c'est la même chose. On fait de la chimie et de la physique. Je dirais presque sans le savoir, mais quand même, on peut réfléchir en disant, mais qu'est-ce que je fais? Et comment je le fais? Et pourquoi je le fais? Donc, à partir de ce moment-là, on s'ouvre à la chimie et à la physique, mais ça n'a pas d'importance dans la création elle-même. Donc, la chimie et la physique fait partie de la parfumerie, mais elle n'est pas nécessaire à l'acte de création.
D'accord. Alors, moi, dès qu'on parle cuisine, je comprends tout.
D'ouvrier, quand même, à un moment donné, vous êtes monté, vous parliez d'aristocratie tout à l'heure, vous êtes monté dans les échelons. Oui. Jean-Claude Hénard, votre premier parfum, c'est First, celui que vous créez.
Oui.
Le premier succès connu
et encore, je veux dire, reconnu, toujours présent. Parce qu'il y a des choses que j'ai créées qui ont disparu, mais...
C'est pour Van Cleef.
Oui, ça c'était pour Van Cleef, c'est 1976. En 76, j'ai 28 ans et
C'est jeune quand même pour un premier
succès pour un jeune parfumeur, c'est très très jeune.
Alors justement, Lionel Faiès, après, on parlait de 53 ans dans le parfum jusqu'au cou. Alors égrené de succès comme ça jusqu'à aujourd'hui.
C'est difficile en fait de choisir. J'ai pris mes parfums préférés,
les choix de Jean-Claude Hénard ne seraient pas les mêmes.
En fait, moi j'ai essayé d'expliquer ce que Jean-Claude Hénard avait apporté à la parfumerie. Donc parce qu'on parle toujours de... En fait, il y a toujours les mêmes mots qui reviennent. Il y a un immense malentendu qui est le mot minimalisme. On dit toujours, Jean-Claude Hénard, c'est un minimaliste. C'est un mot qui, à mon avis, ne définit pas bien son travail, mais c'est souvent celui qui revient tout le temps.
Même si on reviendra sur le fait que vous aimez bien les formules courtes, justement.
Oui, mais c'est pas du minimalisme.
Mais voilà, on expliquera ça.
On peut écrire un poésie en un vers et ouvrir plein de champs des possibles.
Moi, j'aime bien dire que son travail, c'est comme une mélodie. En fait, il fait des mélodies qui ont l'air extrêmement simples, donc on pourrait le rapprocher si on parle musique de Burt Bacharach, de Paul McCartney, de gens comme ça qui sont des grands mélodistes. Oui.
Mais je pense que c'est plutôt Eric Satie.
ou Cole Porter, ou des choses comme ça. En fait, c'est tout ça pour dire que ça a une apparence de grande simplicité. Ça rentre dans la tête, dans le nez et dans la tête parce que c'est des histoires qu'on mémorise assez rapidement, mais en fait c'est d'une grande complexité. Donc
alors
moi j'ai commencé par l'eau parfumée au thé vert de Bulgarie parce que
c'était quelle année ça?
C'était 1992. Pourquoi? Parce que la note thé, c'est quand même assez fondateur dans la parfumerie de Jean-Claude Hénard. Il a inventé la note thé en parfumerie en fait. Aujourd'hui ça paraît incroyable parce que tout le monde fait des notes thé, mais la note thé d'aujourd'hui, c'est toujours l'inspiration Jean-Claude Hénard.
Et comment on l'a fait, la note thé, alors? Parce que ce que vous dites, finalement, Jean-Claude Hénard, c'est par exemple, pour le cacao, il compte 900 molécules. Mon métier consiste à vous faire croire au chocolat avec très peu de moyens. Pour le thé, c'est pareil?
Exactement la même chose, oui. Il s'agit d'illusion, il s'agit d'art. Quand on parle d'art, on parle d'illusion. Mais à partir de ce moment-là, c'est... Comment... Et l'idée... Je rejoins Lionel dans l'idée de... Pour avoir accès tout de suite pour la compréhension de ce que vous sentez, il faut trouver une lecture, enfin, il faut trouver une manière de lisible de ce que vous sentez. Et, bon, ça paraît un peu bizarre comme ça quand je dis lisible de ce que vous sentez, mais il faut que d'entrée vous compreniez ce que je vais dire en parfum. Et pour que ça soit lisible, il faut que ça soit en un peu de mots, un peu d'odeur, et en même temps sophistiqué. Donc là, la note T, c'est trois molécules, et voilà, j'ai la note T. Après, le reste autour, c'est de l'ornementation.
Créer une évidence.
C'est créer une évidence. Après, c'est de l'ornementation. Et donc, l'ornementation va prendre énormément de temps, parce que c'est un travail subtil, ça peut prendre des mois et des mois, mais d'entrée, la structure, c'est voilà, c'est trois molécules et c'est fini.
Et voilà, ça a l'air tout simple. Alors, deuxième référence.
Deuxième évidence.
Non, je voulais quand même rester juste une seconde sur le thé, parce que Jean-Claude Hénard, il invente l'idée que la note thé, c'est pas de reproduire une note thé, c'est de... C'est pas du tout ça, c'est une écriture. Le thé devient une écriture et pas une odeur. Donc c'est une forme de floralité un peu évanescente. Donc c'est vraiment... alors qu'après, on a effectivement essayé de dupliquer l'odeur du thé. Aujourd'hui, on est plutôt dans... On va essayer de se rapprocher le plus près possible de l'odeur du thé. Là, c'était pas le projet. Le deuxième temps, me semble-t-il, c'est déclaration de quartier. Donc c'est quand même que des belles maisons, vous voyez. Déclaration de quartier, c'est un parfum, c'est probablement l'empreinte absolue du masculin. Aujourd'hui, tous les parfums masculins revendiquent une partie de déclaration. C'est 1998.
Et pourquoi ?
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration. Alors, c'est les épices. Les épices, c'est peut-être le deuxième apport. Jean-Claude Hénel n'a pas inventé l'épice en parfumerie, mais on va dire que c'est tellement présent dans sa parfumerie. Ce boisé espéridé qui est déclaration de quartier, avec de la cardamome, du gingembre, ça c'est une partie de la signature, me semble-t-il, aussi de Jean-Claude Hénel, qu'on retrouve tout au long de sa carrière.
Vous confirmez ?
Oui, je confirme, avec une notion qui était nouvelle pour l'époque, c'était la notion d'épices froides et d'épices chaudes.
C'est-à-dire ?
En cuisine, vous connaissez bien ça, ça s'appelle les épices longues et les épices courtes en bouche.
Bien évidemment. Hein ?
Et les épices courtes, c'est le poivre, c'est l'anneau muscade, c'est la cardamome, c'est-à-dire que c'est le côté spontané, voilà, vif, et les épices longues, c'est ce qui reste en bouche. Et moi, ce qui m'amusait, c'est de travailler sur sur ces deux aspects. Et dans déclaration, je travaille uniquement sur les épices courtes, donc les épices spontanées, et ce que j'appelle les épices froides. Et ça, c'est ce qui donne le caractère typique de déclaration.
Et quelques années plus tard, c'est intéressant parce qu'à l'occasion d'une renaissance.
Oui, épices marines.
Épices marines, vous rencontrez celui qui est devenu l'un de vos amis, un grand chef de cuisine, Olivier Rollinger, qui est le grand chef de la cuisine corsière, flibustière et des épices. Et vous avez dialogué pour construire ce parfum autour de la notion de gourmandise, mais surtout d'épices.
Il y a une amitié qui est née entre nous comme ça, à l'occasion, parce qu'on a parlé épices, etc. Il m'a invité à Cancale, et puis à Cancale, il me fait visiter sa maison avec tous ses poivres, une vingtaine de poivres, ses vanilles, ses cannelles, etc., etc. Puis on commence à discuter, et puis il me dit, écoute, voilà, je suis en train de créer une épice pour parfumer les yaourts. Et on commence, voilà, je commence à discuter avec lui, tu pourrais faire ci, on pourrait faire ça, peut-être ci, peut-être ça, etc., etc. Puis à la fin, je lui dis, mais tu sais, en fait, ta démarche, elle me plaît, et je pourrais faire une renaissance sur les épices avec un fond marin. Avec l'idée, c'était le fond marin que j'apportais, c'était le côté eau froide, mer salée, mer froide. Et ça m'intéressait de faire ce côté marin, épice. Je dirais presque l'eau du navigateur. Hein, c'est Saint-Malo.
On largue les amarres avec ce parfum.
Vous vous souvenez combien de temps il vous a fallu pour sortir le déclaration de Cartier? Parce que tout au long de votre carrière, on arrive à une centaine de parfums. Il paraît que vous avez mis 9 mois de travail pour Terre d'Hermès, 3 jours pour un jardin en Méditerranée, 10 ans pour Cuir d'Ange si on reste sur Hermès.
Oui, je vois.
Donc ça peut varier.
Ça peut varier. Non, déclaration, c'est à peu près la même chose que Terre d'Hermès. C'est 9 mois, oui. C'est 8-9 mois de travail.
C'est une naissance.
C'est une naissance. Oui.
C'est au ça, terme, c'est le temps de gestation.
Sens féminin du thème, c'est une naissance. Oui.
Allez, Lionel, on poursuit.
Troisième temps, bois farine. Alors là, c'est l'artisan parfumeur. Et on n'invente pas, on ne découvre pas des nouvelles notes si fréquemment dans la parfumerie. Donc là, c'est vraiment, c'est un des parfums les plus étranges, je trouve, qui existe aujourd'hui. Alors je pense qu'il il continue à bien se vendre.
Très bien, oui.
C'est une inspiration d'un arbre de la Réunion, je crois.
Oui, oui.
Un arbre qui a cette
Ruiza cordata.
Ah, alors, je vais oublier le nom.
C'est aussi des botanistes.
Avec plein de choses, on a un sentiment un sentiment de poudre qui se dépose sur la peau. Alors, c'est pourquoi je l'ai choisi.
Bois farine.
Oui, c'est une idée. Il y a probablement de l'iris dans ce bois farine, mais il y a des inflexions un peu cacahuètes. Il y a un petit côté biscuit aussi que j'adore dans ce parfum. Et quelque chose qui est fondamental dans la parfumerie de Jean-Claude Hénel, c'est le parfum pour soi. C'est pas un parfum avec un très fort sillage comme on peut le voir aujourd'hui. C'est l'idée de dire on peut avoir un parfum pour son propre réconfort, son propre plaisir à soi. Et c'est un parfum qui fait du bien quand on le porte. Et c'est vraiment quelque chose.
C'est le sentiment qu'en a Lyonnais. Est-ce que lorsque vous l'avez conçu, imaginé, vous aviez cette volonté de faire justement ce parfum pour soi et que ce soit ce genre de réflexion?
C'est plutôt ma démarche de faire des parfums pour soi et non pas...
Pas pour celui-là spécialement.
Oui, alors il y a une idée que j'essaye de faire passer à chaque fois, c'est je préfère, quand on sent quelqu'un, faire comme ça. Je vais aller vers la personne et non pas faire comme ça en arrière, ce qui fait que... C'est pas très élégant d'aller en arrière en sentant le parfum de quelqu'un.
D'ailleurs, à l'inverse, certains vous ont fait parfois le reproche de dire « Vous faites des parfums qui ne tiennent pas ».
C'est vrai. Oui. Alors c'est un reproche que... Alors j'ai posé la question à d'autres parfumeurs collègues en disant « Mais à chaque fois on me reproche mes parfums qui ne tiennent pas ». Mais ne t'en fais pas, on me le reproche aussi.
Est-ce que c'est si important qu'un parfum tienne ? C'est important ?
Dans la limite du raisonnable.
Non, c'est vrai qu'après tout, c'est mieux s'il tient, mais on a l'impression qu'il faut un passe-face avec du scotch. Ça doit s'accrocher absolument. C'est pas très très bien. C'est volage, on en remet, on repique.
Alors, le bois farine l'inspiration vient de l'île de la Réunion. Parce qu'à l'époque, j'étais professeur à la Réunion de parfumerie. C'était amusant. Et ce que j'aime bien faire quand je me promène, c'est de visiter les jardins botaniques. Et en visitant le jardin botanique de l'île de la Réunion, je sens un buisson qui s'appelle le Ruiz acordata, une toute petite fleur qui sent la farine. Ça m'a étonné, j'ai gardé ça dans mon carnet. Et le mot bois farine vient que les lieux à la Réunion s'appellent bois. Bois quelque chose, bois vert, bois ci, bois là, bois jaune, etc. Il y a même un bois puant.
Sacré code postal.
J'allais pas mettre ce nom-là. Mais bon, voilà, le bois et la fleur sentait la farine. Et donc l'artisan parfumeur m'appelle en me disant, écoute, on a une idée de parfum de voyage comme ça, est-ce que tu voudrais faire quelque chose? J'ai dit, donne-moi un jour le temps de réfléchir, je prends mon carnet, en regardant mon carnet, il y a cette notion de Ruiz acordata, voilà, de bois farine, etc. Et je l'appelle au téléphone, et écoute, voilà, j'ai une idée, je te fais un bois farine. Ok, ça marche, vas-y. Et alors pour la farine, alors j'ai mis pas mal de notes, mais pour la farine, j'ai quand même acheté 1 kilo de francine.
pour essayer justement de retranscrire
pour essayer de me rapprocher quand même de cette odeur de farine.
Alors justement, on va voir comment vous retranscrivez un petit peu ces odeurs. On va continuer à entrer dans votre univers, Jean-Claude Elena. On fait d'abord une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite pour Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des Goût de Luxe qui vous mettent au parfum cette semaine avec le nez Jean-Claude Elena. Nous sommes aussi toujours en compagnie de Lionel Paillès, notre chroniqueur parfum. On va continuer comme ça à égrener vos créations. Et bien sûr, il y a l'arrivée en 2004 chez Hermès que vous êtes en train de quitter doucement. Maintenant que vous avez fait la transmission avec Christine Nagel, on va y revenir dans un instant, Jean-Claude Elena. Et chez Hermès, c'est aussi là que vous avez créé quelques-uns des plus grands succès. Si on regarde juste Terre d'Hermès, il est toujours deuxième parfum.
Troisième,
ça varie de mois en mois, c'est ça Lionel, vous cherchez la petite bête.
Une manière de box-office du parfum,
faut comme
le
dire.
Oui, bien sûr.
Il y a vraiment un classement des ventes de parfums à la manière de ce qui se passe dans le box-office de cinéma. Et ça a vraiment c'est des incidences importantes, économiques.
Et bien sûr.
Et Terre d'Hermès, donc, vous l'avez sélectionné.
Non, alors, avant, en 2005, il y a un jardin sur le Nil. Donc, encore une collection. Parce que ça aussi, c'est une des caractéristiques de Jean-Claude Hénin, c'est d'avoir, avec cette maison Hermès, d'avoir dessiné des différents territoires. Et différents territoires qui sont là aussi extrêmement compréhensibles tout de suite. On sait ce que sont les jardins, on sait ce que sont les colognes, on sait ce que sont les hermessences. C'est très simple d'accès. Alors un jardin sur le Nil, j'aurais pu prendre un jardin en Méditerranée qui était le premier, mais le premier pour moi vrai Hermès, parce que là Jean-Claude est installé chez Hermès quand il le fait. C'est un jardin sur le Nil. Alors moi il y a plein de choses que j'aime beaucoup et des choses qui reviennent dans sa parfumerie aussi. Donc il y a pour schématiser, il y a des notes vertes, jacinthe, feuilles de tomate. La feuille de tomate qu'on retrouvait dans un autre parfum que j'aurais pu citer, qui était l'eau de campagne de Sisley, que j'adore, moi, je trouve que c'est vraiment un magnifique parfum. Des notes fruitées, donc la mangue. Alors la mangue, c'est vraiment la star de ce... Et une mangue, moi, j'appelle ça une mangue très réaliste. On a vraiment on a l'impression d'avoir la mangue, là, très très proche de la bouche.
Qui coule le long de votre bouche, là.
Le pamplemousse, ça aussi, autre joli référent de Jean-Claude Hénin qu'on retrouve beaucoup. Et puis l'association vétiver pamplemousse qui a été aussi, je pourrais partir dans plein de directions, mais qui a été aussi une invention de Jean-Claude Hénin. Aujourd'hui, on associe des matières premières un peu à la Jean-Claude Hénin. Il y a vraiment cette chose-là. Et voilà, un jardin sur le Nil, pour moi, c'est le premier jardin Hermès, même s'il y en a eu un précédemment.
Jean-Claude Elena.
C'était quoi d'abord cette idée des jardins? D'installer comme ça avec Hermès, la maison Hermès, une espèce de côté sériel, de collection autour de l'idée de parfum. C'était quoi l'idée des jardins? Puisqu'on l'a dit d'abord, jardin de la Méditerranée, jardin sur le Nil, jardin de Monsieur Lee, il y en avait un tous les deux ans.
L'idée est née malgré nous.
Comme
souvent les bonnes idées. Donc l'idée au départ c'était le jardin Méditerranée parce que le thème de l'année pour Hermès, cette année-là, c'était 2004, c'était la Méditerranée. Et donc j'avais été invité à créer un jardin en Méditerranée et au départ on pensait que ça serait juste un parfum pour l'année. Mais vu le succès la réaction du public là-dessus, on a vite changé de cap et on a dit non, ça rentre dans une série. Et alors, et l'idée était forte parce que, qu'est-ce qui se passait pour cette idée-là? C'était que pour le jardin méditerranéen, j'allais sur place, le jardin sur le Nier, on a choisi d'aller à Soin, et c'était à Soin, sur place, que j'allais trouver, qu'il fallait que je trouve l'inspiration, que je trouve l'idée, qu'est-ce que j'allais exprimer. Et donc c'était non pas un parfum fait dans un laboratoire ou derrière un bureau, mais c'était un parfum qui naissait sur le lieu de la création.
C'était un peu un envoyé spécial d'Hermès à Égypte.
Absolument. Et d'autant plus que le jardin sur le Nil, je l'écris dans l'avion du retour. J'écris la formule et 70% de la formule était déjà écrite.
Comme ensuite, quoi, le fait de s'imprégner comme ça, vraiment.
Ah oui, c'était très fort.
C'est très efficace.
C'était très efficace. Alors, c'est intense, c'est un peu des nuits blanches, là. Mais ça marche bien, oui, ça marche très bien.
D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait s'arrêter un instant justement sur votre processus de création? Vous écrivez comme ça, c'est d'abord de l'écriture, en fait, c'est vraiment une œuvre littéraire. Oui. Vos formules, vous le disiez tout à l'heure, elles sont assez courtes. Et après, vous notez les proportions, vous donnez tout ça à votre assistante dans votre atelier où vous êtes installée.
Oui.
Et c'est après que commencent les allers-retours et vous sentez comme ça plusieurs fois?
Oui, mais c'est tout à fait ça, l'explication que vous avez donnée, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'au départ, tout se fait par l'écrit. Et avec les proportions, l'assistante passe les premiers essais. Ensuite, c'est la correction pour trouver le sillage, la diffusion, la tenue, corriger les imperfections. Mais dans ce genre d'approche-là, oui, 60, 70%, 80% de la formule est déjà là.
Ah oui, donc c'est vraiment dans la tête que ça se passe.
C'est purement mental.
Assez incroyable. Allez, Terre d'Hermès.
Terre d'Hermès.
Oui,
alors
là,
alors
c'est
numéro 2, numéro 3, longtemps numéro 1.
Ouais, en bref, en 10 ans, c'est devenu un classique. Quoi.
Un classique. Ouais. Je n'aime pas le mot de baisser, un vrai classique.
Oui, Pierre, j'allais dire trouvaille, non, parce que je pense qu'on n'imagine pas faire ça quand on est compositeur de parfum, mais c'est un classique qui est né classique. C'est un parfum qui est né classique.
Mais je suis tout à fait d'accord.
C'est assez insensé dans l'histoire de la parfumerie. Je pense qu'on en parlera encore dans quelques décennies. Ouais, c'est
alors qu'il n'a même pas 10 ans.
10 ans, c'est ça.
10 ans,
2006, oui.
Déjà ? Ça va vite, ces petites.
Donc avec une entrée bergamote pamplemousse, la rhubarbe qu'on connaît bien, et puis un effet un fond très très boisé, vétiver, patchouli, cèdre, et encore une trouvaille, c'est le silex. Alors je me souviens très bien de la communication d'Hermès à l'époque. Il y a ce côté très minéral et tout le monde se disait, est-ce qu'il y a une essence de silex, un absolu silex? D'où vient ce silex? Et voilà l'illusion dont on parlait tout à l'heure. C'est voilà, tout le monde est persuadé qu'il y a du silex dans ce parfum avec
34 composants dans Terre d'Hermès. Quelles sont justement vos matières préférées? Là, on sent avec ce que nous raconte Lionel depuis tout à l'heure, il y a des choses qui reviennent. Le pamplemousse, le vétiver. Je crois que vous aimez beaucoup l'iris. Et puis, vous êtes gourmand. Vous aimez quand vous voulez une matière, vous la voulez amplement dans un parfum.
Oui, généreusement.
Absolument. Généreusement.
Il faut qu'elle s'exprime. Il faut qu'elle dise ce qu'elle a à dire. Et mais à la fois, alors, je travaille d'une manière un peu particulière parce que ma collection de matériaux, enfin de matières odorantes, c'est 200 matières. La collection normale, c'est 1500 matières. Voilà, j'ai réduit.
En ce cas, vous êtes un minimaliste. Vous travaillez avec la gomme.
Je travaille avec la gomme. J'ai réduit mes matériaux parce que ces matériaux expriment énormément de choses et qu'ensuite, il y a tout un travail de finesse et qui font que on peut dire tout ce que l'on veut avec ces 200 matières. Donc il y a, alors ça veut pas dire que la collection est fermée, pas du tout, elle est ouverte, mais pour qu'elle soit ouverte, pour qu'elle s'ouvre à une matière nouvelle, il faut que il y ait vraiment un nouvel apport, que ça soit une évidence, que
ce
soit.
Et quelle matière justement comme ça vous avez pu faire rentrer dans le champ restreint de votre panthéon personnel, 200 matières vous l'avez dit, qui vous ont vraiment bluffé, vous avez dit celle-là, elle intègre véritablement mon orgue personnel.
Alors, soit ça peut être des molécules de synthèse.
Oui.
Alors les noms, non, je ne vais pas donner les noms.
C'est Lionel, le spécialiste de la molécule de synthèse. Je vous renvoie à son excellent entourage.
Soit ça peut être des produits naturels. Alors, dans les produits naturels, il y a du poivre Sichuan. Parce que ça, c'était vraiment nouveau, le poivre Sichuan en parfumerie. C'est utilisé depuis pas mal d'années en cuisine. Alors, ça, c'est assez amusant par rapport à la cuisine. Je reviens souvent à la cuisine parce que la cuisine est un merveilleux lieu pour expliquer la parfumerie.
Et pour expliquer la parfumerie, je suis tout à fait d'accord.
Et le poivre séchant était très utilisé en cuisine, et de cette utilisation, hop, voilà, on a fait ça en parfumerie. On a trouvé ça beaucoup bien en avant avec l'osmanthus, par exemple, l'osmanthus qui est utilisé aujourd'hui en parfumerie et qui est utilisé en Chine, surtout en Chine, et c'est utilisé en Chine soit pour parfumer les thés, soit pour parfumer le riz, parce qu'il y a du riz à l'osmanthus, soit pour parfumer les alcools, pour parfumer des tabacs. Et beaucoup plus tard, on a dit, mais peut-être on pourrait utiliser ça pour la parfumerie. Donc voilà des matières qui ont un fort caractère et qui ensuite sont utilisées pour la parfumerie.
Et pour parler de générosité sur l'eau de Neroli dorée, donc le dernier colonne qui vient de sortir, vous avez dit, nous avons dû acheter la moitié de la production de Neroli quand même pour faire cette colonne. Et donc, elle est sortie en duo avec la rhubarbe de Christine Nagel. Elle était arrivée en 2004. Vous l'avez choisie chez Hermès pour qu'elle prenne votre suite. Ça y est, c'est transmis. Comment on
transmet? J'ai transmis les clés.
Ça y est, vous avez donné les clés.
J'ai donné les clés.
Comment ça se passe? Il y a des secrets. On peut pas faire. Même si Lionel nous dit depuis tout à l'heure, il y a une école Jean-Claude Héléna en parfumerie. Qu'est-ce que vous lui avez transmis?
Alors, j'ai transmis une chose que je trouve très importante, c'est de la liberté. Et la liberté d'expression,
c'est-à-dire... pas forcément un cadeau, la liberté, parce qu'on ne sait pas toujours quoi en faire.
Je suis bien d'accord avec vous. La liberté, c'est très lourd. C'est lourd à porter, c'est lourd à exprimer, mais c'est à ce prix-là qu'on peut se distinguer. Et je préfère la distinction à la compétition. C'est un bon moyen pour se différencier. Et donc Christine qui vient de l'industrie du parfum, qui était en compétition en permanence, est rentrée dans une société qui, elle, ne cherche pas la compétition. Elle cherche simplement à se différencier. Et avec cette totale liberté, qui est le cadre qui a été mis en place chez Hermès, qui est... pas de test de marché, liberté d'écriture, liberté du choix de la création et choix final entre la direction, entre la présidente et le parfumeur.
Pas d'équipe marketing.
Pas d'équipe marketing pour ce qui est création. Il y a du marketing, forcément, il y a du marketing chez nous, après, pour la diffusion, mais pas de marketing pour la création. Le marketing n'est pas là à dire quelque chose sur la création.
Juste pour revenir rapidement, non pas à Terre d'Hermès, mais à ce succès. C'est vrai que c'est un classique, c'est un grand succès, ça l'est toujours. Comment on vit un grand succès quand on est un parfumeur? On dit parfois que des écrivains qui aussi construisent une œuvre de roman en roman vivent parfois mal un gros succès ou un grand prix littéraire. Lorsqu'on a comme cela, on est ravi, j'imagine, de voir son parfum qui fait écho comme cela autour de plein de gens. Est-ce qu'on n'a pas peur pour la suite? Est-ce qu'on n'est pas un peu fébrile? Est-ce qu'on se doit toujours de chercher le succès ou vous posez pas la question, viendra pas? Même si à les Hermès, ça a l'air de vous laisser beaucoup de liberté et un peu moins de pression que peut-être dans d'autres univers.
D'abord, le succès, c'est pas quelque chose que l'on crée. C'est pas quelque chose. Moi, j'ai pas la recette du succès. J'ai la recette du bien faire, mais j'ai pas la recette du succès. Donc, le succès est venu sur ce parfum sans que je l'attende. Et j'étais le premier surpris d'avoir ce succès-là. Alors, à la fois, j'en suis heureux, ravi. Et je dirais, ce succès m'autoriser à avoir plus de liberté encore. Et donc, oui, le succès, c'est le
plus... C'est un succès vertueux.
C'est un succès vertueux. Et dans ce sens-là, ça, c'était positif.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'ai lu que vous aimeriez prendre du temps pour changer le discours sur les parfums. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Non, ça me...
Ah si, vous l'avez dit.
Oui, je l'ai dit. Oui,
un petit peu comme on parle du vin en France, vous aimeriez qu'on parle aussi bien du parfum.
Alors, tout ce qui a été fait sur le vin, moi je trouve ça absolument remarquable, tout ce qui a été fait sur le vin pour initier, pour goûter différemment le vin, pour s'intéresser au vin.
On a vu un public suivre, le vignoble s'améliorer.
Le vignoble s'est amélioré, le public a suivi, et on a des choses de plus en plus, de plus en plus excellentes, de plus en plus intéressantes. Et ça, j'aimerais bien que ce soit la même chose dans le parfum. Donc pour moi, c'était une référence que le vin. La même chose au niveau de la cuisine. Aujourd'hui, les cuisiniers, quand je regarde les cuisiniers, je connais pas mal de cuisiniers comme Olivier Rollinger, Michel Bras, et maintenant son fils. Et moi, j'apprécie leur discours, leur recherche, leur manière, leur approche de la cuisine.
C'est vrai que le parfum n'a pas encore... C'est-à-dire que tous ces chefs, ou tous ces vignerons ou œnologues ont fourni une éducation au goût ou au vin. au public. Voilà. C'est vrai que le parfum, c'est, je pense qu'il y a un intérêt croissant de la part du public, mais il n'a pas toujours les mots, l'éducation, peut-être parce que le discours qui l'accompagne n'est pas encore très très construit, qu'il y a certainement des choses
donc
à faire.
Donc il y a beaucoup de choses à faire et j'attends des critiques. Merci Lionel.
Vous allez devenir professeur un peu, peut-être cette année, non? Je crois.
Je vais donner quelques voix à l'IFM, c'est du français de la mode pour ça.
Voilà. Et il n'y a aucun parfum, c'est la question quand même subsidiaire qu'on a oublié de vous poser, il n'y a aucun parfum que vous reniez, Jean-Claude Hénard, vous en avez créé presque une centaine.
Un. Allez, dites-le nous.
Allez, il n'existe plus du tout.
Ah, bah, d'ailleurs, il a disparu.
C'est terrible, cette histoire. Le parfum s'appelait Furio. Mais c'est une très jolie histoire aussi. Furio a été... J'avais créé Furio pour Bogart, une société qui s'appelle Bogart. Et Jacques Conquière, qui était le patron, m'avait dit, écoute, voilà, j'attends de toi un masculin, etc. Donc j'avais présenté quelque chose, et puis à chaque fois que je lui présentais, il me dit, c'est pas assez fort, ça sent pas assez. Et donc, à chaque fois, alors je faisais le nécessaire pour que ça sente assez fort. Jusqu'au jour, il me dit, écoute, tu vois, là, je suis à 10 mètres de toi, je veux le sentir à 10 mètres de toi. Pas de problème, je te fais ça. Je lui ai fait, il m'a dit, ça me plaît. Et en lui donnant ça, j'ai dit, mais... c'est vraiment pas bon.
Faut bien une fois.
C'est vraiment pas bon.
Goûter à l'échec.
Et bon, il est parti avec ça, il a mis ça sur le marché. Ça a été un bide sans précédent. Mais j'étais mal. J'ai dit plus jamais ça, plus jamais, plus jamais. Alors que je savais que ça pouvait pas marcher. Et lui a eu ce merveilleux geste, cette merveilleuse parole. Il est venu me voir en me disant, c'est ma faute, c'est pas la tienne. Et donc, je le remercie.
C'est une assez belle histoire.
C'est une belle histoire.
Et voilà. Et ce dernier, là, l'eau de Néroli doré accompagné de l'eau de rhubarbe de colonne d'Hermès, celui-ci, il ne sent pas à 10 mètres. On peut y aller tranquillement. Et le prochain, sûrement, non plus. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Jean-Claude Hénard. Merci beaucoup, Lionel Paillès, pour toutes ces bonnes odeurs qui nous entourent désormais.
Rapidement, non, si je suis un homme d'écriture, renvoie à son Que sais-je sur le parfum. Qu'il a écrit à la suite, il a fait la seconde édition du parfum C'est que sais-je, le premier, c'était un des plus grands nez, et qu'il avait rédigé, à votre journal d'un parfumeur, aux éditions Sabine Lispizer, si j'ai bon souvenir, et je crois que vous écrivez la suite, et peut-être que vous allez construire ce fameux discours et les nouvelles histoires du parfum. En tout cas, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup, merci à vous. Allez, restez avec nous. Good Luxe continue dans un instant sur BFM Business.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Allez, dans un instant, une dernière touche de parfum dans Good Luxe. Mais tout d'abord, le livre de la semaine. Et par ce livre de la semaine, Emmanuel, j'aimerais avoir votre assentiment sur la sélection des bistrots de Paris. Le guide qui vous emmène casser la graine aux éditions Duchesne, c'est Thierry Richard et Amélie Veil qui ont fait le tri. Ils préviennent, c'est totalement subjectif. Ils vous invitent dans les 100 meilleurs bistrots de la capitale à leurs yeux. Et ils commencent. Thierry Richard, c'est le fondateur du Club des Grands Ducs. Il est aussi chroniqueur gastronomique, etc. Vous devez l'avoir croisé. Et la sélection, il commence par nous expliquer ce qu'est pour lui un bistrot, forcément, parce que c'est vrai que c'est pas mal de choses. Ce n'est pas une brasserie, ce n'est pas un gastro. C'est des endroits qui ont une véritable âme, une véritable vie. Alors, je vais pas vous faire toute la liste, mais quand on regarde dans la préface, un bistrot, c'est un endroit où le chef est en cuisine tous les jours, où l'on peut réserver, où l'on peut choisir ce que l'on veut manger, où la cuisine, sans être grande ni gastronomique, est sincère, un endroit où la chaleur humaine réchauffe les cœurs, etc., etc. Et après, il y a une petite sélection,
même
bien
si ça
sûr.
Ça a beaucoup évolué quand même.
Bien sûr, il y a les incontournables.
C'est un peu le fantasme du bistrot.
Les héros de la bistronomie, la mémoire de Paris, le terroir, la jeune garde, les bistrots chics, etc., etc. Et puis, il y a le bistrot selon. Je suis étonnée, ils n'ont pas fait appel à vous, mais ils ont demandé à Émeric Manteau, par exemple.
Eh ben, pourquoi pas? C'est ça, non.
C'est à quoi correspond
J'ai vu le guide. Alors, la préface, c'est un petit hommage, effectivement, au fantasme du bistrot. Parce que très rapidement, dans la sélection d'adresses, on voit bien que c'est tout l'inverse aujourd'hui, un bistrot. C'est un bistrot, c'est une véritable éponge. Et c'est ça, sa vérité. Il commence, je crois, dans un chapitre de la bistronomie. Croyez-moi, du côté de la bistronomie, on est dans une cuisine, certes, sincère, mais qui flirte, et plus que flirte parfois, autour de la gastronomie. La sélection est très bien, notamment le dernier chapitre sur les LC bistrots, tous ces bistrots un petit peu justement nouveau genre qui vont travailler une cuisine plus saine, plus végétarienne. Vous voyez bien que c'est une éponge, un vrai buvard le bistrot, et pas simplement un endroit où l'on moleskine et l'on œuf mimosa et on bouffe de l'œuf engelé et du plat de chauffe. C'est aussi ça, mais pas que ça. La sélection est bonne. Après, et j'adore vraiment le ton et la sélection de Thierry Richard, je me demande encore comment on peut écrire un énième bouquin sur les bistrots, c'est tout.
Eh ben voilà, celui-ci, il vient de sortir, il est aux éditions Duchesne. Allez, on n'en a pas assez. Une dernière petite touche de parfum aujourd'hui dans Good Luxe.
BFM Business, Good Luxe Paris, l'édition du week-end.
Et Lionel Payet est resté avec nous pour cette petite chronique parfumée. Donc, on va pas parler d'Hermès, hein. Cette fois, je pense qu'on en a déjà assez parlé aujourd'hui. Mais votre petit top 5 sur les dernières sorties et les derniers entrants sur le marché de la parfumerie. Vous commencez par une déception.
Je vous ai écouté parce qu'Emmanuel m'a dit, tu es toujours très louangeur, alors.
Non, c'est pas vrai. D'abord, c'est toujours très construit. Et ces derniers temps, vous avez quand même envoyé un peu de fiel dans ce monde de miel.
Alors les déceptions, elles sont toujours à la hauteur de l'attente qu'on a pour un parfumeur. Et moi, je suis un grand fan de Serge Lutens. Et là, il nous sort sa dernière création qui s'appelle L'eau de paille. Enfin, création entre guillemets, parce que il n'est pas parfumeur lui-même, il est directeur artistique. L'eau de paille. Alors l'eau de paille, l'ambition était louable, c'était de faire une eau sèche.
Ah
donc
oui,
de ne pas être dans la fraîcheur, mais de rester dans quelque chose qui est comparable à de l'eau. Il nous fait un accord vétiver, encens et un peu céréales, un peu blé. C'est un peu décevant parce qu'on retrouve pas du tout la patte de Serge Lutens, l'audace, l'imagination, tout ce qu'on trouve chez Lutens habituellement, là on l'a pas. Donc on se demande si vous savez que la maison a été vendue à Shiseido, on se demande si le grand Serge serait pas devenu une forme d'homme de paille pour le grand Shiseido. Et j'espère que la prochaine création va être un peu plus ambitieuse.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on prend comme parfum pour cet été?
Alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est un parfum qui s'appelle Neroli Portofino L'Aqua, parce qu'il y avait déjà eu un Neroli Portofino chez Tom Ford. Donc c'est la maison Tom Ford. Ils font toujours des choses de très très bon goût. Et là, on est dans un parfum parfait pour l'été, c'est-à-dire ultra simple. Donc ce sont beaucoup d'agrumes. Le Neroli, c'est l'essence de fleur d'oranger. Donc c'est essentiellement construit autour de ça. Plus une note très propre, un peu linge qui sort de la machine, vous savez. Cette odeur un petit peu savonneuse, légèrement savonneuse. Donc le mélange des deux fait quelque chose qu'on porte... Du Cap Ferret à Portofino, pourquoi pas si on va en Italie.
Ça avait des jolis goûts.
Donc magnifique, vraiment.
Neroli Portofino, là quoi. Et puis un comeback réussi.
Alors c'est la maison L'Artisan Parfumeur, qui était une des maisons un peu endormies dans la parfumerie depuis très très longtemps.
Et pourtant, elle en a sorti, elle. Ouais.
C'était d'une innovation incroyable pendant 25 ans, 30 ans. Ils ont été rachetés par un groupe catalan qui s'appelle Puig. On s'était dit, Puig, c'est Paco Rabanne, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Bon, même si la maison était un petit peu moribonde, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils ont un peu épuré le catalogue. Ils nous sortent des codes qui sont plus du code néo-apothicaire qu'on a vu chez Bouly il n'y a pas très longtemps.
Ils ont redessiné le flacon. C'est vrai que c'était un flacon mythique, parce que c'est quasiment toujours le même flacon. Il y avait que l'étiquette qui changeait chez Artisan Parfumeur.
Mais
ça avait
plus
un coup de patin.
Ils ont tout changé. Les boutiques, ils refont les boutiques en propre. Parce que l'idée, c'est de garder quand même cette idée. Puig, ils n'ont pas de boutique en propre pour aucune de leurs marques. Ils veulent quand même surfer sur cette idée de réappropriation de l'univers de la marque. C'est absolument réussi. Ils n'ont pas trahi le catalogue, c'est-à-dire que les grands référents,
le premier figuier.
Le bois farine de Jean-Claude Elena est toujours là, et donc c'est vraiment un très bel réhabillage.
Et puis dans le monde de la parfumerie, il y a bien sûr ces mots, ce vocabulaire, on en parlait tout à l'heure, et alors là, le mot fourre-tout, c'est l'addiction.
Ouais, alors l'addiction est à toutes les sauces. Alors on avait une addiction un peu années 80, fin des années 70, années 80, qui était de surfer sur le vocabulaire proche de la drogue, dure. Évidemment, on se souvient d'opium.
Poison, quelque part.
Poison était un peu sur ce registre-là. Aujourd'hui, vous entendez tous les parfumeurs, mais vraiment tous, ils vous disent, on a voulu de l'addiction, on a voulu choisir des matières addictives, on n'est que là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'addiction? C'est, on veut fidéliser une consommatrice ou un consommateur, donc on va lui donner des grandes matières premières qui font référence souvent à l'enfance. Donc il y a des matières gourmandes, mais pas que. Et l'idée, c'est de créer une forme d'addiction, même si on n'est quand même pas dans l'addiction dure, dans la drogue dure, pour acheter une deuxième, une troisième, une quatrième fois le parfum. Alors voilà, tout le monde veut faire de l'addiction et ça devient un petit peu
mais
un peu ridicule.
Nous résisterons. Et alors, en termes de too much, alors là, il y a une communication aussi.
Magnifique campagne. Alors les campagnes, il y avait eu Dior Homme il y a pas très longtemps, qui était vraiment une belle campagne pour un parfum masculin. Là, c'est Cerruti 1880, la version sport. Donc par version sport, on entend version été, qui nous sortent une. Alors moi, j'y ai travaillé, donc je peux ironiser allègrement. Ça me rappelle les couves de Ben Sells des années 90.
Ah oui, c'est vrai que vous en étiez rédacteur en chef.
On voit ce type torse nu qui a enroulé ses mains de sa cravate. On a l'impression qu'il va peut-être en coller une à son patron. Je sais pas ce qu'il veut faire. C'est d'un ridicule. Ouais. Donc il y a pas d'humour, il y a pas d'élégance. Cerruti est sur la mauvaise pente, j'ai l'impression.
De 1881.
Et donc voilà, vous êtes fait plusieurs amis d'un coup. Merci beaucoup, Lionel Paillès.
C'est pas plus mal.
Allez, l'agenda.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Et une info de taille, Emmanuel Rubin se met au sport.
C'est bon, non. Non, pas du tout. Je me mets à l'automobile et je continue. C'est un grand événement. 23 avril prochain. Je l'annonce simplement parce que la billetterie est ouverte. Il y a encore quelques places. www.paris-eprix.com. C'est la première épreuve de course automobile qui va avoir lieu à Paris depuis 70 ans. La dernière fois qu'il y a eu une course automobile à Paris, c'était juste après la Libération. Ça s'appelait la course de la Libération. Depuis, aucune course automobile. Et c'est le championnat du monde de Formule E. Les Formule E, ce sont des monoplaces électriques. Et c'est un championnat qui dure depuis 2 saisons. Il y a eu plusieurs épreuves qui ont lieu cette année à Chine, en Malaisie, en Uruguay, en Argentine, au Mexique, aux États-Unis. Épreuve parisienne, 23 avril. Le tracé, c'est tout autour des Invalides. C'est assez étonnant, parce que tout autour des Invalides, j'imagine qu'ils ont bien fait les choses, il y a pas mal de pavés. Donc je m'étais dit quand même qu'ils allaient chercher plutôt le macadam, le vrai bitume. En tout cas, ces monoplaces, elles montent jusqu'à 225 km/h, donc ça c'est intéressant. Et surtout, il y a pas mal de très bons pilotes, d'anciens pilotes de F1. Alors il y a le fils Prost, il y a Stéphane Sarrazin, français, il y a vraiment des bons pilotes. C'est assez spectaculaire, j'ai pu assister à une course l'an passé. Bien sûr, pas à Paris. Ça vaut le coup. On est vraiment dans tout ce qui fait l'imaginaire de la F1 avec les paddocks, les temps de course, les arrêts au stand. C'est plutôt réussi. Et c'est très sympathique de voir comme ça Paris renouer avec l'automobile, même si elle est électrique. Ça fera plaisir à Anne Hidalgo, je crois.
Le 23 avril. Là aussi, il faut vous inscrire. Les journées particulières LVMH, ce sera le 20, 21 et 22 mai. Porte ouverte dans les grandes maison, que ce soit à Paris, en France, dans des ateliers, par exemple, que ce soit en Italie, chez Loro Piana, par exemple, dans la filature, que ce soit chez Moët & Chandon, Guerlain, Achard, j'en passe, et des meilleurs, Dior, les ateliers Vuitton, Chaumet. Il faut s'inscrire sur le site.
C'est ainsi,
tout simplement, les journées particulières de LVMH. Sauf que, bien sûr, il y a ces inscriptions, mais heureusement, si jamais vous n'avez pas pu vous inscrire ou vous décidez au dernier moment, vous ne savez pas si vous êtes encore libre, bref, au dernier moment, il y a encore 50% des places qui sont disponibles le jour même.
Ah, c'est pas mal.
Donc, c'est pas mal. Donc, voilà.
Autrement,
il faut aller sur le site, bien vous renseigner. Mais bien sûr,
06,
sinon,
19,
vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Je ne vous fais rentrer nulle part parce que je ne peux rien faire. En tout cas, merci Emmanuel. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et restez avec nous dans un instant. La suite de Good Luxe Paris, c'est le best-of de la semaine.